chez le roi. Marie-France Guimard Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles et aux rois qui ont fait l'Europe et la France. Marie-France Guimard Roche est heureuse de vous retrouver dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel avec mon amie Sarah Broukhart. Bonjour Sarah.
Bonjour Marie-France.
Sarah, redites pour nos auditeurs vos fonctions dans le domaine royal de Dreux.
Alors, je suis chargée des publics et de la promotion du domaine royal de Dreux.
La promotion, on s'en occupe aujourd'hui.
C'est ça, de parler au plus grand nombre du domaine.
Nous avons fait il y a quelque temps une émission en partie sur Philidor pour cette année Philidor 2026 et nous avons abordé donc tout le thème des échecs puisque c'était un champion,
c'est ça, un champion du monde.
Catégorie, champion du monde.
Oui.
Donc en 1700...
Alors, il est né en 1726 et il devait avoir une trentaine, quarantaine d'années, je pense.
Mais il a commencé à jouer très jeune.
Oui, il a commencé à jouer jeune aux échecs lorsqu'il était encore à Versailles.
Il était petit page.
C'est ça, et quand il était page à la chapelle de Versailles, tout à fait.
Vous nous aviez raconté l'histoire. Vous le connaissez bien, Philidor.
Alors, moins bien que certains autres personnages de la chapelle, puisque ça fait assez peu de temps, finalement, qu'on en parle réellement. Ça reste une figure peu connue, méconnue, mais qui est intéressante à découvrir.
Et nous découvrons aussi à cette occasion sa musique.
Oui, puisque avant d'être un joueur d'échecs, il est en fait beaucoup plus connu pour les échecs que pour sa musique, alors qu'il était un compositeur. Il a inventé notamment l'opéra comique. Il y a plusieurs œuvres à son actif, plus d'une dizaine d'œuvres. Donc c'était vraiment quelqu'un de très musicien, finalement. C'était ses premiers amours, la musique, avant les échecs.
Et donc, il a écrit... est-ce que vous avez quelques titres? Alors, pour préparer ces émissions, j'ai bien sûr écouté la musique sur YouTube, la musique de Philidor. Je me souviens de Tom Jones.
Oui, Tom Jones, c'est son opéra le plus connu.
Ah, voilà.
Et d'ailleurs, ça peut faire assez peur parce qu'on voit vraiment des vidéos très longues. Hein. C'est très, très long.
Oui, j'ai pris des morceaux, voyez-vous.
C'était environ 2 heures ou 3 heures d'œuvres en fait à diffuser, donc c'était très très lent. Donc Tom Jones, c'est la plus connue. On a aussi Erlinde, princesse de Norvège.
Très joli prénom.
Voilà, qui est assez connue. Le maréchal Ferrand également. Donc il y a plusieurs œuvres comme ça qu'on peut retrouver assez facilement si on s'intéresse à Philidor. Et on peut aussi rajouter que c'est un enfant lui-même de musicien. Il a toute une famille déjà de musiciens. À la cour du roi, ses frères et sœurs également étaient musiciens, donc vraiment des virtuoses.
C'était difficile d'obtenir une charge de musicien à la cour.
Tout à fait.
Il devait être particulièrement doué.
Il a réussi notamment à avoir une pension de Louis XV pour sa musique. Donc il était quand même très coté à la cour du roi.
Et il a vécu longtemps à Dreux ou c'était seulement ses années de jeunesse?
Ses premières années, jusqu'à ses 6 ans. Et ensuite, il est parti vers de nouveaux horizons, donc notamment Versailles, avant d'aller un peu plus loin, puisqu'il était après à Londres, où il est décédé en Angleterre.
Oui.
Oui. Il a fréquenté de nombreux cafés des Lumières, notamment le café de la Régence. Et puis ensuite, il est parti sur Londres retrouver d'autres grandes personnes du siècle des Lumières.
Et il est mort en quelle année?
Alors, il est mort en 1795 à l'âge de 68 ans. Donc pendant en plus la pleine période de Révolution, il a pas pu rentrer en France avec toute cette période très compliquée.
Il était beaucoup mieux, à mon avis, en Angleterre.
Exactement, donc il est décédé en Angleterre à l'âge de 68 ans.
Alors donc, ses œuvres sont encore appréciées de nos jours ou bien est-ce qu'on les a un petit peu redécouvertes à la faveur de cette année?
Oui, on les a redécouvertes hein, parce qu'on a d'autres grands noms souvent qui ressortent de la musique, Bach, Beethoven, etc. Philidor, c'est vrai qu'on le connaît beaucoup moins sur cette thématique. Son buste est sculpté sur l'Opéra Garnier à Paris.
Ah.
Donc quand même, il est connu dans cette sphère, mais beaucoup moins pour le grand public. qui est dommage. Et donc, on va en parler un peu plus là cette année, notamment à l'occasion de concerts qui seront donnés dans la Chapelle Royale. Donc, on va en avoir un au mois de mai, consacré à ses œuvres. On en aura un autre au mois d'août également.
Et elles vont être jouées comment ? Un orchestre ?
Oui, ensemble baroque et orgue. On aura un petit peu de tout.
Et l'orgue de la Chapelle Royale est magnifique, évidemment.
Oui, bien sûr. Il s'y prête, forcément. Mm-hmm, il s'y prête. Donc, au mois de mai, on aura donc, l'ensemble baroque. Au mois d'août, ce sera un orchestre.
À quelle date, dites-moi, Sarah ?
Le 30 mai.
Le 30 mai.
Alors, au mois d'août, la date n'est pas encore actée, mais ce sera dans la semaine du 10 au 15.
J'en suis ravie, je serai là, bien évidemment.
Et alors, mois d'août, c'est avec les Petites Mains Symphoniques. Donc là, on aura un orchestre.
Les Petites Mains
Symphoniques, oui.
Mais bien sûr.
Oui, oui. Donc, on aura un orchestre qui se déplacera pour donner un Te Deum. Donc, c'est une des œuvres de Philidor.
Magnifique.
Et le dernier, ce sera le 19 septembre, journée du patrimoine, le samedi soir. Et ce sera de l'orgue. Dans les cartons de Philidor, pour être assez large, prendre d'autres œuvres aussi, pas seulement celles de Philidor, être dans les cartons, finalement.
Dans les cartons.
Dans les cartons de Philidor, c'est ça.
Et vous les avez trouvés où, ces cartons ?
Alors, ce n'est pas nous ou moi, c'est avec Monsieur de Crête, donc, qui va nous faire le plaisir de nous jouer ses œuvres des cartons de Philidor. Alors, il a effectivement dû passer beaucoup de temps dans les archives,
de Crête.
Dans les archives pour trouver des partitions.
Oui. Ce qui ne doit pas être facile. Parce
oui, tout à fait.
Eh bien, ça va être magnifique, bien entendu. Et donc, juste la date du mois d'août.
Alors, elle n'est pas encore définitive, mais ce sera entre le 10 et le 15 août.
Très bien, parfait. Alors maintenant, nous allons aborder un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ce sont les toutes petites choses qu'on peut admirer et que vous m'avez fait découvrir pour certaines sur la Chapelle Royale.
Oui, alors sur et dedans aussi, puisque même à l'intérieur, il y a des petites bêtes, notamment, des petits animaux. Et puis beaucoup plus largement, il y a beaucoup de représentations de décors forcément religieux.
D'où le titre de cette émission, l'araignée, l'escargot et le papillon.
Tout à fait. Donc ces trois petits animaux se retrouvent à l'extérieur sur la façade de la chapelle. Donc c'est la façade où on a les vitraux d'ingres du transept. On retrouve ces trois petites choses un peu dissimulées puisque il y a ces trois animaux et puis on a aussi beaucoup d'autres chimères qui entourent les fenêtres des vitraux. Donc il faut réussir à les observer, à les trouver.
Ah, sans vous, je suis née à Dreux. Je croyais connaître la Chapelle Royale. Ce n'est pas du tout le cas. Il a fallu que vous arriviez, vous, pour me faire découvrir toutes ces petites choses. C'est ravissant. Et oui. Est-ce que vous pensez que c'est... Enfin, c'est volontaire, je ne sais pas si ça a été acté dans des plans ou dans des... Ou bien est-ce que ce sont des petites facéties, finalement, peut-être, de sculpteurs qui se...
Alors, on n'a pas effectivement d'archives pourquoi on aurait fait ces trois animaux. Il n'y a pas vraiment de pourquoi, du comment. Est-ce que c'est vraiment voulu ? Est-ce que c'est demandé ? Est-ce que c'est une liberté qui a été prise ? On peut faire des suppositions sur ces choses-là, mais on sait qu'à l'époque, quand même, c'est les ateliers Lienard et Knecht, je le dis peut-être un peu mal le deuxième nom de la personne, ce sont deux sculpteurs ornementalistes en fait, qui ont travaillé sur tout l'ensemble de la chapelle royale. Quand Louis-Philippe a voulu réagrandir la chapelle de sa maman, il voulait garder bien sûr la forme originale, mais moderniser l'ensemble avec le style néo-gothique. Donc il va faire appel à ces deux hommes hein, qui sont associés et qui vont donc créer tout l'ensemble de décors, autant extérieur qu'intérieur.
Et on peut supposer... Ils avaient un atelier parisien
ou... Oui, tout à fait. Et on peut supposer que ce sont eux, avec forcément toutes leurs autres petites mains qui travaillaient, qui ont dessiné des décors. Et à ce moment-là, on était dans des symboliques religieuses. On va retrouver beaucoup de choses religieuses dans la chapelle à l'extérieur. Mais on a aussi beaucoup de décors plutôt végétales, avec des fleurs, des plantes, et aussi
des petits animaux.
Naturels, avec des animaux. Effectivement, c'était vraiment dans le style de l'époque. Et on peut supposer que ça a été dans un ensemble de lectures qu'on a ajouté ces animaux. Puisque si on cherche un peu, on peut trouver des symboliques. Alors après, je ne peux pas vous dire à 100% que c'est pour ces symboliques qu'on les a placés là, ou si c'était seulement pour un décor. Mais on peut forcément s'imaginer qu'il y a forcément une lecture derrière ces trois animaux cachés. Par exemple, l'araignée. Au XIXe siècle, c'était plutôt un symbole négatif de se retrouver piégé dans la toile. Alors c'est quand même assez étonnant puisque l'araignée, si on regarde bien de la chapelle, sur son corps il y a une croix catholique qui est sculpté vraiment. Alors, c'est quand même dans un détail
surprenant. Oui, j'avoue que j'ai très bien vu l'araignée. Et d'ailleurs, vous allez tous vous précipiter à la chapelle royale pour voir, évidemment, l'araignée, l'escargot et le papillon. Mais alors, demandez à Sarah de vous arrêter devant, mais un petit moment quand même, parce que les pattes de l'araignée en pierre.
Oui, c'est de la pierre.
Non, mais c'est quand même extraordinaire d'avoir
fait donc,
ça. Et puis
donc, oui, cette croix vraiment sur le corps de l'araignée. Et puis bon, la toile tout autour qui est extrêmement bien dessinée.
C'est la foi catholique
qui
vous
ça.
Prend dans sa toile.
C'est ça. C'est
voilà.
Ça. C'est vraiment la symbolique voulue. Et souvent, l'araignée, c'est celle qu'on repère en premier, puisque la toile, elle est tellement bien faite que l'œil va se diriger sur l'araignée, tandis que l'escargot et le papillon sont un petit peu plus dissimulés parmi les autres chimères de la fenêtre, qui décorent la fenêtre. Donc les chimères, vous savez, c'est des petits monstres qui sont souvent sur les bâtiments religieux.
On peut appeler aussi chimères les grosses gargouilles.
Oui, voilà, effectivement, on a aussi les gargouilles.
Mais là, tout à fait des petites choses chimériques.
Tout à fait, et d'ailleurs qu'on retrouve aussi à l'intérieur de la chapelle. On a d'autres petites chimères qui se cachent, surtout au niveau de l'entrée de la chapelle, vers les vitraux, où on va retrouver ces petits démons, ces petites choses démoniaques un peu dissimulées. Et on va retrouver...
Et c'est à hauteur d'homme ou bien il faut vraiment lever les yeux ?
Non, il faut quand même lever un peu la tête. Ouais. Il faut lever la tête. Elles ne sont pas extrêmement hautes, mais il faut quand même avoir le réflexe de lever la tête pour observer le décor aussi des hauteurs.
Et avoir donc, le virus de la découverte.
C'est ça. Et encore aujourd'hui, j'en découvre toujours des petits détails. Oui, des détails que je n'ai pas vus.
Pourtant, vous êtes là depuis combien de temps ?
5 ans, 5-6 ans, mais il y a tellement de choses à regarder.
C'est fou.
Qu'on ne voit pas forcément des petits détails. Et c'est une découverte de chaque jour. Mais pour l'escargot, l'araignée et le papillon, ça, c'est quelque chose qu'on fait. C'est un jeu d'observation. Qu'on a avec les enfants. Alors, ça marche aussi très bien avec les adultes.
Ah, très, très bien. Ça, je vous confirme, mais il n'y a pas de problème.
Mais c'est ce qu'on avait inclus plutôt pour la visite guidée avec les enfants, puisque forcément, on n'a pas le même discours. Il faut que ce soit un peu ludique. Donc, de les faire rechercher ces différents éléments sur la façade, et ça les fait beaucoup rire. Effectivement. Donc, l'araignée, c'est, plutôt la foi, etc., qui emprisonne. Mais c'était plutôt négatif au 19e siècle. C'est aussi le temps qui passe, etc. Et puis, on va avoir l'escargot, qui, lui, est un symbole de foi, mais par habitude. Alors, ça peut être aussi négatif, c'est un peu ambivalent, on ne sait pas bien. Mais suivant les recherches qu'on fait, on n'a jamais les mêmes symboliques qui reviennent. Donc, c'est un peu une lecture personnelle. Qu'on fait. Puis alors, excusez-moi, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas baigné dès mon enfance dans la religion. Donc, c'est encore une lecture que j'ai, moi, un peu plus, profane, entre guillemets.
Mais elle est aussi intéressante que la lecture religieuse, parce que
ça.
Finalement, vous nous faites découvrir d'autres choses.
Oui, c'est ça. Et puis, alors, le papillon, lui, c'est un peu plus positif, quand même. C'est la résurrection, on peut dire, qui est clos, etc. Donc, c'est un peu plus positif que les deux premiers. Mais voilà, entouré d'autres petites choses. Et alors,
quelles
à l'intérieur...
sont les petites choses que vous avez vues, alors, par exemple, à l'intérieur, comme vous dites?
Alors, à l'intérieur, on a notamment des poissons.
Bon, c'est assez étonnant. Ça, c'était aussi le symbole chrétien,
voilà.
Par excellence.
On a des poissons. Alors là, c'est à l'intérieur, c'est au niveau du déambulatoire, dans les frises qui décorent les tombeaux. Vous avez, au total, il y a environ 70 petits écoinçons donc, qui décorent le déambulatoire. Et dans chaque écoinçon, vous avez effectivement plutôt une représentation religieuse. On va retrouver notamment l'Arche de Noé. On va avoir donc des poissons. Plus loin, on va avoir de la poterie.
Mais comment sait-on que c'est l'Arche de Noé ? Ça se compose de quoi ?
Alors là, on a vraiment un bateau avec plusieurs animaux autour. Bon, là, c'est assez facile, même en n'étant pas du tout connaisseur, de reconnaître l'Arche de Noé. Donc, on va avoir les poissons, de la poterie, des fleurs aussi, beaucoup de roses, de lys. Donc, on a aussi un mélange de végétal naturel et de symbolique religieuse.
Et tout à l'heure, nous avions dans nos studios Philippe Gauvin qui parlait d'une croix particulière qu'il avait remarquée sur un tombeau.
Oui, là, c'est sur un gisant en particulier.
Et elle est assez petite, elle aussi.
Oui, c'est très fin. C'est sur le tombeau du duc d'Aumale. Donc, c'est un petit garçon, c'est un des fils de Louis-Philippe et Marie-Amélie. Pour ceux qui connaissent la chapelle, vous avez l'enfant voilé, donc le petit garçon avec le voile sur lui.
Sans doute le plus célèbre monument.
Exactement. À sa droite, vous avez son frère Ferdinand qui est dans une posture où il tient un livre dans sa main avec une couverture.
Et il est couronné.
Non.
Ça n'est pas lui.
C'est l'autre, justement.
Mais alors, la couverture en coton.
Voilà.
Mais
ça, c'est le frère Ferdinand.
Vous devez avoir beaucoup de mal à empêcher les gens de toucher parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une vraie couverture.
Oui.
Et elle est en pierre.
C'est ça. C'est en marbre. Donc ça, c'est le frère de l'enfant voilé.
Oh là là.
Oui, avec la couverture, effectivement, et le livre, avec la couverture du livre elle-même aussi, qui est très bien décorée. Et donc, l'autre gisant avec la tête couronnée, effectivement,
un petit garçon,
c'est le duc de Penthièvre. Pardon, je me suis trompée tout à l'heure, c'est pas le duc d'Aumale. C'est le duc de Penthièvre, donc un fils de Louis-Philippe et Marie-Amélie. Et c'est lui qui a cette croix, effectivement, qui est très fine. Et sur la croix, on voit aussi donc le Christ, en fait. Et là aussi, c'est très, très fin. Parce que beaucoup ont une croix. La plupart des gisants, quand même, une majorité ont une croix. Mais ça reste la simple croix. Que lui, il a aussi le Christ. On voit la silhouette qui est vraiment sur la croix. Et c'est très, très fin. C'est un travail très fin, effectivement.
L'enfant voilé, où on voit les traits de l'enfant sous un voile et le tout en marbre.
Oui. Le marbre, c'est toujours assez étonnant comme on parle
sans voix.
De la couverture du prince Ferdinand. Ou alors, on pourrait aussi parler de la robe en dentelle de la reine Marie-Amélie. Mmh. C'est très joli. On a aussi une autre, la princesse de Salerne, qui se trouve dans la chapelle de la Vierge face à Louis-Philippe et Marie-Amélie. Elle tient dans sa main un médaillon, un portrait aussi. Alors c'est extrêmement joli. Elle a des chaussures, on voit les tout petits nœuds des chaussures.
C'est merveilleux.
C'est vraiment très beau. Et puis il y a la princesse Hélène aussi, Hélène de Mecklembourg-Schwerin, qui a l'alliance qui est sur son annulaire. Donc c'est très fin aussi, il faut le voir. Mais c'est très représenté.
Autrement dit, quand vous faites visiter la chapelle royale, vous partez pour une visite d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis au bout de trois heures, vous êtes toujours là. Mais regardez cette alliance, c'est extraordinaire. Il y a aussi la chapelle de cette duchesse qui est protestante.
C'est ça, la princesse Hélène. Oui.
La princesse Hélène qui tend la main vers son mari.
C'est sur elle qu'on a l'alliance, justement, sur l'annulaire.
Fantastique.
Puisque donc elle tend la main vers son mari, effectivement. Et alors, toute la symbolique avec l'alliance aussi qu'on peut voir sur son doigt, tout à fait.
Alors, Louis-Philippe, le roi Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie, eux ne sont pas des gisants, c'est un monument...
C'est un mausolée.
Un mausolée.
Voilà, tout à fait.
D'ailleurs, il est très important, ce mausolée, et la robe de dentelle, la robe en dentelle, mais c'est fou, quoi. Une dentelle de pierre, mais d'une finesse.
Oui. Et puis avec le coussin aussi sur lequel est agenouillée Marie-Amélie, puisqu'elle est en train de prier, en position de priant, d'ailleurs on appelle ça un priant.
Lui est debout et elle est agenouillée à son côté.
Et donc on a aussi donc l'oreiller où ses genoux sont positionnés avec les petits pompons, vous savez, sur les côtés de l'oreiller qui sont très bien dessinés. L'oreiller lui-même, effectivement, est décoré aussi. On a le relief, on voit le relief du marbre très fin qui est sur l'oreiller. Et puis Louis-Philippe qui a sa cape avec les fleurs de lys aussi qui sont représentées. Donc tous les gisants sont extrêmement beaux. On a aussi deux gisants qui tiennent des cartes notamment. Et sur les cartes, on voit les pays dessinés ou les villes représentées. Donc là aussi, c'est très fin. Mon préféré étant le comte de Beaujolais.
Ah, j'allais vous en parler.
Voilà.
Il est extraordinaire, celui-là.
Qui est vraiment celui qui a le plus de détails, je pense, puisque déjà lui-même est très détaillé.
En plus, il est
détaillé
sympathique.
Et très beau.
Il n'est pas allongé, il n'est pas mort.
Non, il est en position de réflexion.
Oui.
Voilà, c'est pensif. Ça. La main qui tient la tête, avec la carte, justement, qui tombe un petit peu. Pensif. On pourrait l'imaginer au bord d'un lac.
Oui, il est très serein, voilà, en tout cas.
Il est très beau et donc lui est extrêmement détaillé puisque même sur le socle, on a un petit cours d'eau, on a beaucoup de végétaux, de fleurs et de feuilles qui sont aussi dessinés.
Et en plus, il est très joli garçon.
Oui, c'est un très beau gisant. Tout comme le prince Henri qui lui est dans le déambulatoire et c'est le second qui tient une carte. Qui est celui qui est en position beaucoup plus en souffrance. Il se tient sur les avant-bras et la tête penchée en arrière. C'était aussi un très bel homme. Il est mort très jeune, le pauvre. Il est mort en voyage d'exploration en Asie. Et alors sur celui-ci, j'aime beaucoup, puisqu'on a effectivement cette carte où on voit la France représentée. Et il y a de nombreux autres accessoires, puisqu'on va retrouver un compas, une petite sacoche d'explorateur, des bottes, etc. Donc là aussi, tout en détail. Tout à fait. Et on voit ce qu'il aimait faire dans la vie, puisque là, on a tout l'attirail de l'explorateur. Il n'est pas habillé en tant que prince ou avec un costume militaire, comme c'est le cas, par exemple, pour le duc d'Aumale ou d'autres princes. Lui, il est vraiment en tenue d'exploration.
Il y a un gisant qui doit être extrêmement demandé aussi, on doit vous en parler, c'est la sœur de Sissi.
Oui, alors là aussi, alors le nôtre, est, celui qu'on a dans la chapelle, est beaucoup plus simple que celui qu'on retrouve au musée d'art et d'histoire.
Mais j'ai vu sortir le gisant dont vous parlez,
oui,
le jour où on l'a emmené au musée, et c'est, je comprends pourquoi la famille s'est dit, là vraiment c'est tragique. D'abord, elle a eu une fin tragique dans l'incendie du bazar de la Charité, mais on la voit souffrir. Dans son marbre, là, c'est poignant. Ils l'ont sorti, en fait, par un endroit que je ne connaissais pas, sous l'arche, sous le pont. Il y a une porte, et j'ai vu sortir ce gisant. Ah, mais j'y pense encore, il y a quelques années.
C'est une des portes qu'on découvre lors de nos visites exceptionnelles.
Ok, où il y avait sans doute les cuisines, non, c'est pas dans ce...
Le gisant, le premier gisant de la duchesse était effectivement dans les cuisines.
C'est ça.
Voilà. Et ensuite, il a dû être sorti par le souterrain du pont, qui mène vers le pont. Alors là, ce n'est pas relié aux cuisines directement. Mais oui, il y a tous ces endroits cachés du domaine. C'était dommage qu'elle soit dans les cuisines.
Donc, ah, ça, c'était heureusement, dommage. Oui,
heureusement que la décision a été prise de le montrer à tous, puisqu'il est vraiment extrêmement beau, beaucoup en souffrance, effectivement, très romantique, contrairement à celui qu'on trouve dans la chapelle, qui, malgré tout, à ce détail du bois sous l'oreiller. Donc ça reste...
J'ai pas vu le bois.
Ça reste encore une fois un détail, puisqu'il faut le voir. Et puis quand on connaît pas l'histoire, on pourrait pas forcément y prêter attention. Mais quand on connaît l'histoire, on remarque très bien ces morceaux de bois un peu calcinés qui se trouvent sous l'oreiller de la duchesse. Ça donne un rappel de sa mort, tout en restant... beaucoup moins romantique que le premier, elle est beaucoup plus neutre sur celui qu'on trouve à la chapelle.
Mais c'est vrai que cette fin était vraiment tragique et des gens qui s'en sont sortis, parce qu'il y a eu quand même
des centaines de...
des visiteurs qui ont pu sortir à temps et qui ont tous attesté de l'attitude héroïque qu'avait eue cette duchesse. Elle a en fait sacrifié sa vie pour en sauver d'autres.
Oui, notamment les femmes qui l'accompagnaient et d'autres femmes et enfants aussi qui se trouvaient présents lors de l'incendie. Alors d'ailleurs, je crois qu'elle est décédée dans les bras d'une de ces dames de compagnie qui l'accompagnait. Elles sont mortes ensemble dans les bras l'une de l'autre.
Elle n'a pas voulu l'abandonner.
C'est ça, c'est ça. Et elles se sont retrouvées prises au piège sans pouvoir rien faire. Mais effectivement, c'est une femme, déjà c'était la plus titrée. Lors du bazar, elle faisait l'inauguration en tant que duchesse d'Alençon. Et elle a refusé effectivement de sortir pour aider d'autres qui étaient présents. Vraiment un courage exemplaire.
Alors après avoir salué la duchesse d'Alençon, nous retournons à vos petits animaux, Sarah.
Oui, puisque nous avons évoqué à l'extérieur l'araignée, l'escargot et le papillon. Mais on retrouve aussi dans la chapelle, puisqu'il y a donc toute une lecture à avoir architecturale entre les décors extérieurs et intérieurs, on va retrouver à l'intérieur notamment un hibou qui se cache.
C'est chouette.
C'est ça. Un hibou, et juste en face de ce hibou, on va avoir une hirondelle avec son nid.
Oh, que c'est beau.
Alors ça, pour vous donner une idée de où se situent ces deux petits animaux. Quand vous rentrez dans la chapelle, vraiment dans le cœur de la chapelle, par la porte sur le côté, eh bien, c'est dans la première pièce, vous avez le bénitier. Vous levez la tête, vous avez le hibou au-dessus du bénitier, et sur le côté opposé, vous avez l'hirondelle, qui se font face les deux. Donc là aussi, le hibou comme l'hirondelle, on peut retrouver des symboliques si on cherche vraiment liés à la foi chrétienne, comme ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'araignée, l'escargot, les papillons. Toutes ces choses, en fait, ont une symbolique. Si on fait une lecture globale, il y a toujours des récits.
Mais il y a quand même... Il faut les découvrir. C'est ça qui est fantastique.
Oui, il faut toujours donc lever la tête. C'est ça, le secret pour avoir tous les détails, c'est lever la tête et vraiment chercher, être curieux de ce qu'on peut voir. Et alors le hibou, en faisant quelques recherches en tant que symbolique, pareil l'émission, c'est considéré comme un lien entre les vivants et les défunts. Alors forcément, dans la chapelle de Dreux, ça prend tout son sens.
Bien sûr, qui en fait est une nécropole.
C'est ça,
royale.
C'est la nécropole. Et on a eh bien toutes les personnes qui viennent leur rendre hommage, et notamment à l'époque, bien sûr, de Louis-Philippe, où on avait la famille qui venait rendre hommage à leur défunt. C'est très beau comme symbolique, ce hibou. Et alors, l'hirondelle, eh bien, c'est un symbole aussi de résurrection de la nature. Alors, comme pour le papillon, tout à l'heure, on l'a dit que c'était aussi un symbole de résurrection. On peut estimer que c'est une des lectures, puisque je ne dis pas que c'est la seule. Hein. Je ne suis pas experte de la présence d'une hirondelle dans la chapelle.
Je voudrais terminer par une phrase que m'a dite le prince Jean, il n'était pas encore comte de Paris, Jean d'Orléans. Je lui demandais pourquoi il avait tenu à se réinstaller dans le domaine royal. Et il a eu une phrase qui m'a vraiment beaucoup surprise et beaucoup touchée. Il m'a dit « Mais que voulez-vous, je ne pouvais pas laisser tous les miens tout seul là-haut. » Et j'ai trouvé ça très joli.
C'est vrai.
Je suis certaine que vous avez passionné nos auditeurs.
Merci
encore d'être venue et naturellement, vous reviendrez.
Avec plaisir, comme d'habitude. Merci Marie-France.
Merci Sarah. Philippe Maillard enregistre cette émission et la réalisera pour vous dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel. Au revoir. Thank you.